Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir deux grands noms de du roman historique, donc Mireille Calmel et Teresa Rêvé. J'en peux les applaudir. Ces auteurs ont la particularité déjà d'être très souriantes, donc ça c'est une bonne chose.
C'est ma Bordeaux, on est forcément souriants.
Bon. Également donc d'écrire de grandes sagas historiques qui connaissent un très fort succès de par le monde et d'être édité chez Pocket. Donc ce soir il sera question de romans historiques en général, de leurs romans en particulier, puis de passer surtout un bon moment. Voilà. Donc on va commencer par la petite présentation protocolaire. Par qui vais-je commencer ? Mireille Calmel.
Si vous voulez.
Excusez-moi. Donc, vous avez écrit la grande saga à succès, Lully d'Aliénor. Vous avez écrit également toutes les suites, donc Aliénor, le règne des lions, l'alliance brisée. Vous avez une démarche éditoriale assez particulière, donc ça, vous me l'avez tellement bien présenté tout à l'heure en privé que je pense que ce serait pas mal que vous le présentiez aussi par vous-même. Vous ferez mieux que moi.
Oui, maintenant, ça tout à l'heure.
Oui. Vous avez également écrit Le bal des louves, Le chant des sorcières. Richard Cœur de Lion également, dont le deuxième volume va paraître au mois de mars en 2014.
C'est bien ça.
Très bien.
Peut-être avant si j'ai fini, mais...
Ah. Teresa Rêvé. Vous avez écrit jusqu'à présent 6 romans.
Oui.
Notamment Valentine ou Le temps des adieux, qui retrace en gros la période des années folles jusqu'à la fin des années 60. Vous avez également écrit L'hiver grandi ou Le souffle du destin, là c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez écrit également La Louve blanche, je pense que c'est par celui-là que vous avez commencé à avoir beaucoup de succès, en tout cas à vous faire connaître. Puis après la suite de Tous les rêves du monde. Là, vous faites aussi l'actualité parce que vous avez votre avant-dernier roman, donc Dernier été à mes fers, qui vient juste de paraître en pocket, que vous trouverez derrière vous. Et L'autre rive du Bosphore, qui va paraître le 17 octobre.
Oui.
Et vous trouverez derrière vous des petits livrets avec un extrait de ce roman. Donc vous êtes invité à vous servir. Et je suis sûr que je vous mets au défi de ne pas venir justement le 17 octobre et venir vous chercher le livre en entier parce que vraiment, c'est vraiment excellent, vraiment. Donc, ma première question va être générale. Je voulais savoir, en tout cas, je voulais réfléchir avec vous au concept du roman historique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Enfin, moi, je vous avoue que j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia, sur Internet en général, et je me rends compte que les définitions changent, ou en tout cas alternent, ou en tout cas tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ce principe ou à ce concept. Qui veut commencer ?
Je vais laisser Teresa commencer.
Alors, c'est pour moi, bon, le roman traite de l'homme, de l'individu. Donc, tout roman parle de l'homme, d'une analyse psychologique, d'un portrait, d'une progression d'un personnage. Et l'histoire traite plus de la cité dans le sens philosophique, c'est-à-dire du lieu, de la sociologie, des événements. Pour moi, ils sont vraiment très proches. Ce sont vraiment des frères, enfin des frères ennemis pour certains analystes qui veulent rentrer dans le détail. Mais le roman historique, peut-être... veut une authenticité dans l'arrière-plan. Et c'est ça qui est notre travail, me semble-t-il, sur des époques de prédilection. Moi, mon époque de prédilection, c'est le XXe siècle. Et donc, l'arrière-plan joue en effet un rôle important qui va jouer sur les personnages. Mais les personnages sont inventés et c'est là que rentre en ligne de compte le roman et le romanesque surtout. Parce que c'est ça aussi un petit peu en France la différence entre le roman historique et le romanesque historique qui donne peut-être une part plus importante à l'émotion, du moins c'est ce que moi je cherche à faire avec mes personnages, où il y a une histoire qui galope tout simplement, on est emporté dans le livre et l'arrière-plan est rigoureux, le personnage est inventé mais colle à une réalité historique, et c'est ça qui fait ce lien. Alors est-ce qu'on les oppose, est-ce qu'on oppose le roman et l'histoire? Pour moi, ils sont tout de même très complémentaires. Donc je verrais plus de points communs que de points divergents. Après, on peut rentrer évidemment dans le destin vraiment de l'analyse de l'histoire littéraire française, et tout ça part aussi, mais on peut en parler, du nouveau roman. Donc on peut revenir là-dessus.
Je rejoins évidemment votre analyse aussi, sauf que moi je travaille avec des personnages souvent réels, d'ailleurs pour ne pas dire quasiment que des personnages réels, avec quelques-uns qui sont impliqués dans l'histoire. Donc le roman historique, il est, à partir du moment où on respecte des lieux, des dates, à partir du moment où on restitue à l'histoire ce qu'elle a été, on est dans le roman historique. Après, chaque auteur a sa propre perception du roman lui-même et de la manière de l'écrire, de le travailler. Je sais que ma particularité, entre guillemets, c'est d'allier l'histoire à la légende, de remettre dans son contexte historique la légende qui était à l'origine, vraiment la base. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai travaillé sur la saga d'Aliénor, on m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais prêté à un personnage qui était un personnage réel, une lignée de Merlin l'Enchanteur. Évidemment, ça, a priori, ça n'a rien à voir. Quelqu'un m'a dit, mais vous faites du Harry Potter dans l'histoire. J'ai dit, non, pas du tout, je ne fais pas du Harry Potter dans l'histoire. Elle est légitime, même si, effectivement, cette jeune femme n'a jamais été, on imagine, la descendante de Merlin l'Enchanteur ou la dernière des grandes prêtresses d'Avalon, mais ça me permettait d'aborder le sujet de l'intérieur, puisque le sujet, en réalité, il est tout simple, c'est que Henri Plantagenet, après avoir lu les écrits de Geoffroy de Monmouth, qui était un érudit et qui avait écrit La vie des rois de Bretagne, s'est mis en quête du tombeau d'Arthur et d'Excalibur, et il a retrouvé le tombeau d'Arthur et Excalibur, c'est attesté par tous les chroniqueurs de l'époque, et Richard Cœur de Lion est parti avec Excalibur à la troisième croisade. Et à partir de là, tout ce qui est encore aujourd'hui la légende arthurienne est né sous l'impulsion d'Aliénor d'Aquitaine. Donc vous voyez, on n'est pas si éloigné que ça de la légende à la réalité, sachant en plus que ce que nous, on considère comme de la légende, c'était le quotidien de ces gens-là. Ça nourrissait toutes les cours d'amour. C'était quelque chose de tellement évident pour eux qu'ils en parlaient comme nous, on parle de la pluie, du beau temps, des derniers événements. C'était un fait culturel et à la limite un fait de société, puisque ça influait sur toute la civilisation à ce moment-là, à cette époque-là. Donc voilà, moi, ma particularité, c'est un petit peu ça. Donc je suis à la fois dans le roman historique pur, traditionnel, comme le fait Teresa, puisque je respecte scrupuleusement, je vous dis, les dates, les lieux, voire les personnages, puisque souvent les miens ont existé. Mais à côté de ça, il y a cette part de légende qui, elle, n'est pas courante dans le roman historique et qui est particulière à ma plume. Voilà.
Oui, tandis que vous, Teresa Révé, vous êtes beaucoup plus ancrée dans le réel. Mais vous nous parliez justement de cette période de prédilection, le XXe siècle. Pourquoi vous avez cette période-là
Et puis moi, c'est l'histoire proche, en fait. Parce que Mireille parle d'une époque que nous n'avons pas connue.
Non, on dirait entre le Moyen-Âge et
donc son intuition est aussi extrêmement importante. Et son travail d'historienne, de rechercher les faits et la vraisemblance, est lié à son travail d'intuition de romancière. Moi, j'ai l'histoire proche, c'est-à-dire le plus souvent, je peux parler à donc, c'est vrai que, pourquoi vous me demandiez le XXe siècle? Pour moi, c'est le siècle de toutes les ruptures. C'est le siècle des ruptures historiques, c'est le siècle des ruptures des deux grandes guerres mondiales, des révolutions, des ruptures spirituelles, de la montée du matérialisme. C'est vraiment un siècle qui m'a beaucoup touchée, peut-être aussi parce que je pense que j'ai un père d'origine hongroise qui a vécu l'exil, qui a quitté la Hongrie en 1945. Donc tout ce qui a été le rideau de fer, j'ai été élevée dans cette vision des pays derrière le rideau de fer. Donc la plupart de mes livres sont, d'ailleurs tous mes livres, sont toujours à cheval sur différents pays européens. Et ça vient de cette fracture qu'il y a, de cette rupture qu'il y a dans ma propre famille. Et cette quête m'amène évidemment à un devoir d'authenticité qui est important puisque je croise des descendants, évidemment, de gens qui ont vécu ce que je raconte. Et il m'est arrivé, pour Livia grandit sur les verriers, où je parle du déplacement des populations allemandes après la deuxième guerre de la Tchécoslovaquie de ce qui était la Tchécoslovaquie vers la Bavière, quelqu'un qui avait 5 ans à l'époque, et qui, dans un salon du livre, une Allemande, qui est venue vers moi et qui m'a dit « Mais j'ai retrouvé les odeurs, les senteurs et l'atmosphère de ce que j'ai vécu. » Alors là, vous pensez bien qu'en tant que romancière, pour moi, c'est vrai que je ne peux pas me permettre, enfin, je ne suis pas à l'abri d'une erreur, mais je dois faire attention à ce que je raconte. Donc, parler de l'histoire proche, ce qui est mon cas, me demande d'être, en effet, assez rigoureuse et attentive, et mon intuition vient à travers l'émotion des personnages. Et là, dans mon dernier sur la Turquie, je suis beaucoup plus proche de l'Europe occidentale, donc autant je n'ai pas trop d'angoisse de raconter de faire évoluer des Russes, des Italiens, des Allemands, des Français. Là, les Turcs, je me suis dit, oh là là, quand même, c'est pas tout à fait mon univers. Et en travaillant à travers des mémoires, des journaux intimes, je me suis approchée d'un univers qui est un petit peu différent du mien, et dans l'espoir de ne pas me tromper, mais ça c'est aussi tout mon travail, de me déplacer, de faire des interviews.
C'est vrai, c'est la même démarche, même si il y a plusieurs siècles d'écart, mais c'est vrai que c'est la même démarche. Moi je me rends sur les lieux, évidemment, des batailles ou des châteaux, puisqu'ils n'existent plus, vous avez une zone industrielle à la place, donc ça n'apporte rien. Par contre, aller dans les archives départementales, rencontrer des gens, et puis déchiffrer des textes anciens, je ne fais pas ça toute seule, hein, je vous rassure, je n'ai pas la capacité pour faire ce genre de choses, donc je m'entoure de gens compétents, parce qu'on ne déchiffre pas du gaélique ancien ou de la langue d'œil comme ça, et puis sinon je n'écrirai pas, donc on n'aurait pas le temps.
Oui, puis il y a un moment où il faut s'arrêter,
c'est ça, mais c'est très important, effectivement, et cette part d'intuition qui vous guide à tel endroit plutôt qu'à tel autre, et qui fait que vous vous attachez à des termes bien particuliers. On ne s'habillait pas au Moyen-Âge partout de la même manière, même si on vous dit les grandes lignes du vêtement, c'était ça. Oui, non. Dans le nord et dans le sud, ils n'étaient pas habillés de la même manière. Ils ne mangeaient pas les mêmes choses non plus. Il faisait froid d'un côté, il faisait chaud de l'autre. Enfin, c'est exactement les mêmes différences qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis, je pense que Teresa sera d'accord avec moi, l'émotion, évidemment que c'est celle qui guide les personnages. Parce que même si vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la tête de quelqu'un du 19e, du 20e ou du 12e siècle, je considère que quand vous êtes sur un champ de bataille et que vous avez un fusil à la main, un ennemi en face, la peur, elle est la même. Quand vous croisez le regard de celui dont vous savez intuitivement qu'il va être l'homme ou la femme de votre vie, le cœur y bat de la même manière. Après, ce sont les mots pour le dire, c'est l'éducation qui fait qu'on cède ou qu'on ne cède pas, qu'on meurt ou qu'on ne meurt pas, parce qu'on a appris à manier l'épée ou le mousquet ou le fusil ou la baïonnette. Mais je pense que les émotions, les ressentis sont les mêmes, et de tout temps. C'est valable aussi pour la préhistoire, c'est valable pour tout. Parce que les émotions, même si elles ont grandi au fil de l'homme, je pense qu'à la base, physiologiquement, elles sont les mêmes. Et si on est capable, nous, romancières, de traduire ça, on donne une couleur à l'histoire que les historiens ne donneront pas. Parce qu'ils s'attachent effectivement à des faits, ils s'attachent à des dates, ils s'attachent à des lieux, ils s'attachent à des personnes, mais ils ne s'attachent pas à ce qui fait qu'à un moment donné, dans la vie de ces personnes, il y a eu un événement peut-être pas écrit, peut-être pas raconté dans les chroniques de part et d'autre, mais qui a influé sur la décision du jour. Comme vous, chacun d'entre nous, on va prendre une décision parce qu'on n'a pas bu son café le matin, ou qu'on est en colère parce que le mari nous a cassé les pieds, ou la femme, ou on a un souci quelconque qui fait que cette décision, elle va être celle-là et pas une autre. Et certains traités, y compris pendant ces guerres et dernières guerres, ont pu être aussi influés par des choix autres que stratégiques, autres que tactiques, peut-être parce que simplement, derrière, il y a des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes, ils sont universels, ils sont exactement comme on était nous, comme nous sommes nous. Ils sont en proie à leur peur, à leur souffrance, à leur rire, à leur désarroi. Ils sont en proie à l'humanité de leur être. Et ça, c'est notre boulot de romancière. C'est ça qui fait la différence,
oui, qui fait la différence, oui, absolument. C'est cette intuition, cette émotivité, cette émotion, et qui donne cette couleur romanesque à nos romans, et qui fait la particularité de ces romans qui ont vraiment une âme, comparée peut-être à des romans plus secs, et qui vont eux aussi traduire un arrière-plan véridique et travaillé, mais sans ce souffle. Je pense que ce qui fait la différence aussi du roman historique tel que nous le faisons, c'est ce souffle qui a été très décrié en France pendant des années, puisque ce qu'on appelle aussi le roman populaire a une connotation très péjorative en France, où on se targue surtout beaucoup à Paris de ce qu'on appelle le germano-pratin, donc tout ce qui est autour de Saint-Germain-des-Prés est très chic et tout le reste est regardé de haut. Mais le roman, ce que j'appelle le roman populaire, c'est le roman qui a une volonté de divertissement, mais on peut faire du divertissement de qualité, et je sais que c'est ce que fait Mireille, c'est ce que j'essaye de faire aussi, et ça c'est une chose très particulière à la France que vous ne retrouverez pas dans les autres pays, non. Et nous sommes traduites dans plusieurs, et ça c'est vraiment quelque chose de particulier à la France, où dès qu'on parle du roman populaire, ou c'est-à-dire, et qu'est-ce que c'est que le roman populaire ? C'est un peu la question, qu'est-ce que c'est que le roman historique ?
De toute façon, à partir du moment où on parle de roman, il ne faut pas oublier qu'il y avait les écrivains, il y avait les auteurs étant pour le théâtre, les écrivains pour la littérature, et puis il y a eu une sous-catégorie qui a permis de cerner le roman de gare à une époque, ça a été les romanciers. Donc en réalité, quand on a parlé, quand on a créé le mot romancier, c'était pour le distinguer des gens qui écrivaient, c'est-à-dire des écrivains, c'est-à-dire de la littérature. Donc c'est une espèce d'amalgame. Donc aujourd'hui, moi je revendique ni les uns ni les autres, moi je suis une raconteuse d'histoire. Et à l'inverse, et je pense que Teresa aussi, je connais ses livres, je les apprécie, donc je sais exactement comment elle travaille. Voilà, on fait partie de cette catégorie de romanciers et de romancières qui ne sont là que pour apporter quelque chose à nos lecteurs, pour faire en sorte que, une fois qu'ils auront puisé de l'énergie dans ce livre, ils en aient pour continuer leur quotidien, tout en leur amenant en plus ce petit quelque chose qui fait que, ils ont appris. En plus, ils ont appris quelque chose sur lequel ils peuvent se reposer complètement, oui. Puisque notre travail est sérieux et qu'on a l'aval des historiens pour le faire. Par contre, effectivement, la différence, c'est ça. Quand vous avez un livre qui est écrit par un historien, vous avez 12 pages de description. Ce qui fait que quand vous arrivez à la fin des descriptions, vous ne savez plus du tout ce qu'il voulait dire avant. Et souvent, c'est lourd, c'est pesant, et ça étouffe le roman en lui-même. Parce que le but d'un historien, c'est malgré tout de faire passer un savoir. Nous, c'est de faire oublier le savoir sans pour autant qu'il soit absent du livre. Oui. Nous, notre but, c'est de faire en sorte que finalement, vous appreniez des choses sans vous en rendre compte, et que ce savoir distillé au fil des pages et des atmosphères, parce que moi je préfère travailler sur des atmosphères, c'est celui-là qui est important. Quand vous rentrez dans une pièce, vous ne regardez pas si le mur était bréché, si la personne à côté de vous elle a une petite tache sur la joue. Ce n'est pas ça que vous allez retenir. Ce que vous allez retenir, c'est l'émotion qui va se dégager de la personne. C'est ce qu'on appelle son aura, son charisme. Ou alors, c'est l'atmosphère qu'il y a dans une pièce. Et notre travail de romancier, c'est de vous rendre ça. Ce petit déclic qui fait que, brusquement, vous êtes dedans et vous avez l'impression de sentir, de palper, de respirer, et vous êtes en immersion complète. Et puis, pendant ce temps-là d'immersion, vous n'êtes pas ailleurs, vous n'êtes plus dans vos soucis, vous avez oublié le reste. Et c'est ce qui fait que, moi j'aime, parce que quand je lis les livres de Teresa ou d'autres, de mes confrères, je redeviens juste une lectrice. Et ça, c'est magique. Ouais. Donc, je pense qu'à la base, vous êtes une grande lectrice aussi.
Et bien sûr, de toute façon, on ne peut pas écrire, je veux dire, sans lire. Moi, je lis, depuis que je sais lire, j'ai toujours un livre avec moi. Et je pense qu'aucun auteur, aucun écrivain, aucun romancier ne peut le faire sans avoir ce goût incroyable de la lecture. Et quand je viens ici, j'ai envie de partir avec un camion. Et c'est pour ça que j'essaye d'éviter de rentrer trop souvent dans les librairies, parce que c'est épouvantable.
Sauf qu'on a les salons du livre pour nous rattraper.
Oui, c'est très. Mais c'est très vrai ce que vous dites, Mireille. C'est vraiment cette transmission d'émotions sans que ce soit pédant. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et
ni pédant, ni mièvre. Parce que souvent, on nous dit oh là là, ce sont des lieux communs. Non.
Oui, mais les lieux communs sont des vérités, sont tout simplement aussi des vérités. Et il y a des traits de caractère que lorsqu'on peut dire que tel ou tel personnage est stéréotypé, c'est souvent emblématique. Et moi, je sais que mes personnages incarnent des réalités psychologiques que j'ai découvertes à travers mes lectures. Donc, quand je mets une phrase quand je mets un état d'esprit chez un personnage, c'est que ces gens-là, de cette catégorie sociale-là, pensaient ça à ce moment précis de l'histoire. Et donc, mais ce qui est important, voilà, c'est qu'à la fois, on arrive à vous transmettre ce que nous, on a travaillé en amont. Et Dieu sait que moi, je renonce à un nombre de détails. C'est épouvantable. Moi, c'est un chemin de croix à chaque fois, parce que j'ai tellement de choses à dire. N'est-ce pas? Et alors, on sacrifie, on s'en dit, oh, mais c'est formidable et tout. On sacrifie, parce que le secret, en tout cas pour moi, dans l'écriture, c'est que tout ce que je raconte d'un point de vue historique passe à travers le personnage. Donc je me mets dans la peau, comme un acteur se met dans la peau de son personnage. Absolument. Et me dis qu'est-ce qu'elle sait à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle ressent, et tel événement historique ne la touche pas, ou il n'y a que par ricochet, donc j'en parle à peine ou je n'en parle pas.
Bien
et
sûr.
Ça, voilà. C'est d'où ce renoncement à beaucoup de choses. Et on pourrait faire un. D'ailleurs, vous savez, comme dans les DVD, vous avez toujours
le bonus.
Il faudrait qu'on fasse un bonus des livres en disant voilà ce à quoi j'ai renoncé.
Alors, ce que je fais moi, par exemple, par contre, c'est à la fin de chaque saga, c'est mettre une bibliographie succincte. Évidemment, je ne vais pas vous mettre celle qui me sert moi à travailler.
Oui,
une bibliographie succincte qui permet aux gens d'aller plus loin s'ils en ont envie, donc d'aller fouiller dans cette période. Mais c'est vrai que si, je vous dis, ce serait imbuvable. Or, on veut vous embarquer, on veut vous emmener. On n'a pas. Ce qu'on veut, c'est raconter une histoire, une belle histoire. Et les belles histoires, elles passent aussi par ne pas s'intéresser aux petits détails qui fait la grande histoire, mais qui fait pas l'histoire de ce que l'on est. Donc, on s'en nourrit, mais ça ne nous fait pas vivre. Donc, il faut absolument que ça parte.
Ou alors, le petit détail qui va donner cette véracité.
Le goût.
Le goût, l'odeur, la couleur, les choses qui font qu'après, les gens disent, mais oui, c'est ça. Alors, pour le coup, c'est vrai que moi, revenant à l'histoire proche, où c'est souvent l'histoire des grands-parents maintenant, il y a quand même une mémoire des lieux, des événements. Donc, souvent, on me dit, oui, comme je vous ai raconté l'autre anecdote, oui, ça c'est vrai. La mémoire plus ancienne, donc ça c'est déjà plus loin. Et là, l'intuition.
On y arrive parce qu'il y a des lettres, parce qu'il y a des choses comme ça.
Elle est authentique. Et puis de toute façon, le lecteur le sent. Franchement, le lecteur le sent, et le lecteur sent quand le travail est là. Le lecteur est loin d'être idiot. Et vraiment, quand nous faisons le travail en amont, vous le sentez. D'ailleurs, moi, en tant que lecteur, je le sens chez les historiens romanciers qui font vraiment leur travail. Et je sens quand c'est du Wikipédia délayé.
Bien sûr. C'est terrible. N'allez pas sur Wikipédia. C'est vrai que c'est facile, mais non, c'est...
C'est un portail vers d'autres choses.
Voilà, c'est un portail vers d'autres
choses. C'est vraiment le premier pas vers d'autres choses.
Mais... Bon, du coup, on lui laisse même
du
pas.
Coup, du coup, il ne parle plus.
Ça n'allait pas nous lancer sur le sujet. Ouais, vous avez deux nanas qui parlent beaucoup, c'est terrible.
Tant mieux. c'est pas angoissant, justement, d'écrire un roman historique et se dire que, à la moindre erreur, on peut recevoir tout un tas de courriers de lecteurs en nous disant non, mais c'est n'importe quoi, vous n'avez pas mené votre enquête comme il faut.
Moi, ça m'a jamais posé un problème. J'écris depuis toujours. Ouais. J'ai toujours écrit. Vous savez, je pense, Thérésa dira comme moi, on n'a pas écrit pour chercher le succès, on n'a pas écrit pour chercher des lecteurs. La première personne qu'on a cherché à surprendre, c'est soi-même. Moi, la première histoire que j'ai racontée sur le papier, je l'ai écrite pour moi, je l'ai écrite parce que j'ai eu envie de m'émerveiller cette histoire. Et je continue à écrire avec le même émerveillement, avec le même amour des choses. Quand je traque une histoire, quand je fouille dans toute cette manne de documents et qu'il y a une petite étincelle qui vient alimenter mon intuition et tout ça, mais j'ai l'impression d'être Sherlock Holmes, quoi. C'est fabuleux. Et ça reste une magie qui est totalement égoïste. Donc c'est finalement le roman, il cesse de nous appartenir le jour où il rentre dans les mains d'un éditeur et où il fait sa vie auprès de vous. Mais quand on est là face à sa plume, je vous jure que je pense pas à vous. C'est terrible à dire, mais
non, non, mais je ne pense qu'à
ça. Parce que ça voudrait... Ceux qui se mettent dans l'idée... Non, on n'écrit pas... Bon,
on n'écrit pas pour plaire.
Non, on a pas... Enfin, je veux dire, puis d'abord, ça se saurait. Si on, on écrivait pour faire des best-sellers, tout le monde en ferait, quoi. C'est pas... voilà, moi, j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, que dès mon premier roman, on en vende 1 million d'exemplaires, youpi. Mais je, franchement, je n'ai jamais même imaginé une seule seconde que ça pouvait être possible. Et ça ne m'a jamais effleuré l'idée que ça pouvait être renouvelable. C'était pas important. Ce qui était important, c'était brusquement de voir qu'une histoire tenait la route entre ses mains et qu'une histoire, quand on avait fini et qu'on relisait le livre, on arrivait encore à s'émerveiller de ce qu'on avait soi-même écrit. Pas parce que le style, ceci ou cela, juste parce que l'histoire en elle-même, elle nous redonnait les mêmes émotions qu'au moment de l'écriture. Et c'est ça qui est magique.
Mais c'est vrai ce que vous dites, qu'il y a, il y a un retour de la part des lecteurs. Moi, j'en ai eu. J'ai eu même un lecteur allemand compliqué avec, qui a fait toute une, sur la Louve Blanche, toute une liste en disant à mon éditeur allemand, c'est truffé d'erreurs historiques. Alors là, j'ai eu quand même un choc. Alors j'ai dit, écoutez, non, alors ça truffé d'erreurs historiques, certainement pas. Il y en a peut-être une ou deux, je veux bien, mais truffé, non. Et il avait fait tout un listing que j'ai démonté point par point. Et en retrouvant heureusement toutes les notes et toutes les sources que j'avais. Donc oui, les lecteurs peuvent venir et puis vous tomber sur des gens qui peuvent en effet vous faire des reproches. Ou... Donc c'est quelque chose qui touche quand même, parce que moi j'essaye d'être rigoureuse. Donc c'est quand même une de mes craintes de faire, voilà, de passer à côté ou de mal interpréter quelque chose. Donc j'essaye de limiter ça en faisant un travail rigoureux à la base. Mais c'est vrai qu'au fil de l'écriture, il y a cette rencontre de toute façon entre nos personnages et nous. Et ce dialogue incroyable de tout romancier avec ses personnages, le temps que dure l'écriture, moi, s'il me faut 2 ans à peu près pour écrire un livre, 1 an de documentation et 1 an d'écriture, et nous vivons dans ce dialogue permanent avec ces personnages, pour ma part, imaginaire, oui, j'ai quelques personnages réels aussi, mais c'est vrai que les personnages imaginaires prennent une place folle, et qu'ensuite on livre un peu au lecteur, et c'est comme, voilà, c'est comme présenter des amis qu'on a portés comme ça pendant 2 ans, et on les présente à d'autres, et en espérant que l'accueil sera favorable et sympathique et qu'on va aimer nos amis.
On a tous et toutes des très pointilleux. Moi, je me rappelle sur un salon du livre un monsieur qui est arrivé en me disant, alors là ça va pas du tout, je saurais plus vous dire quel arbuste, hein, mimosa, lila, je sais plus. Il me dit, ah non madame, alors là je suis catégorique, là vous avez dit que ça avait été implanté à telle date, et alors non, c'est absolument pas possible. Le monsieur était très féru apparemment de botanique, et je lui dis, écoutez, dans ce cas là monsieur, si c'est une erreur, moi c'est des sources que j'ai trouvées, vous pouvez me dire quand. Et il me dit, ah non, c'était 2 ans après. Hein. Ouais. J'ai fait ouf. Voilà, donc on a évidemment des choses comme ça. Et paradoxalement, j'ai eu une petite anecdote comme ça. Après le lit d'Aliénor, j'ai un médiéviste, monsieur qui était à la retraite, qui avait 75 ans et à l'époque, et qui m'a envoyé une très jolie lettre en me disant, vous avez failli être la cause de mon divorce. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et alors la lettre démarrait comme ça. Alors il m'explique que sa femme était amie avec une journaliste du magazine Historia, lequel magazine avait sorti effectivement un papier dithyrambique sur le lit d'Aliénor, et lui avait tendu, la journaliste lui avait dit à sa copine, écoute, lis-le, moi j'ai beaucoup aimé, et voilà quoi. Et cette femme a lu le lit d'Aliénor, a aimé le lit d'Aliénor, est arrivée le soir même et a déposé le lit d'Aliénor sur la table de chevet de son mari en lui disant, si tu le lis pas, je divorce. Et il me disait, vous comprenez madame, ma femme a 40 ans de moins que moi, elle est fort jolie et agréable, ça m'ennuierait beaucoup de divorcer, donc je vous ai lu. Et il disait, donc je vais vous dire honnêtement, je n'approuve pas, parce que foncièrement je suis un historien très rigoureux, donc je n'approuve pas cette espèce de magie que vous avez mis dedans, cette espèce de avoir donné à un personnage réel cette lignée d'Avalon, ce que je vous disais tout à l'heure. Il me dit, bon, je n'approuve pas. Cela étant, vous avez réussi l'exploit de faire en sorte, en faisant ça, que du coup tout le reste devienne légitime. Et là, chapeau. Il disait, donc je ne divorce pas, et j'ai pris du plaisir, ça m'écorche le cœur de vous le dire, mais c'est comme ça. Et en fait, voilà, donc on a eu une petite correspondance avec ce monsieur pendant quelques années, il est décédé malheureusement il y a 2 ans, mais il m'a apporté beaucoup, parce que du coup, suite à ça, il a lu d'autres romans historiques, alors qu'il avait un tabou énorme.
Oui,
il a découvert tabou, qu'effectivement, d'autres auteurs de romans historiques étaient capables d'un travail extrêmement rigoureux. Mmh. Et quand j'ai eu l'occasion de l'appeler pour lui dire « Écoutez, je bloque là-dessus, mon intuition, elle me mène là. Mais sincèrement, je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, et est-ce que c'est logique ou pas. » Il m'a vraiment apporté des réponses. Et il a été là en me disant « Connaissant votre sérieux, là, oui, oui, oui. Alors attendez, je vais fouiller, je vais chercher. » Et chaque fois, il m'a aidé. Donc, comme quoi... À un moment donné, il ne faut pas avoir peur non plus des réponses que les autres peuvent nous apporter. Elles nous enrichissent. Si on commence à s'inquiéter des critiques, bon, en dehors de certaines critiques purement parisianistes, d'auteurs qui ne vendent pas et à qui ça écorche le ventre de savoir que nous écrivons des best-sellers, les trois quarts des gens ne sont pas là. Ils savent qu'on fait notre métier et qu'au-delà du métier, on a cette passion et qu'on n'a pas envie de se mentir non plus. Donc, ils ont une réponse qui n'est pas forcément la même que la nôtre. On peut en débattre, on peut en discuter. Moi, je me souviens d'un monsieur qui était arrivé sur le truc en me disant « Oh là là, moi, je n'ai pas du tout aimé votre livre. » Je lui ai dit « Mais écoutez, monsieur, c'est votre droit de ne pas aimer mon livre. Parlons-en. » On a débattu pendant 1h30. À la fin, il m'a dit « J'avais pas aimé votre livre, mais maintenant j'ai les clés pour comprendre pourquoi. Donc je vais le relire. » Et voyez, tout ça, voilà, il l'avait lu parce qu'il s'attendait à une biographie d'Aliénor, tout simplement. Oui. Et il n'y avait pas une biographie d'Aliénor. Oui. Aujourd'hui, bon, il a eu une autre approche. Donc faut surtout pas hésiter à dire à un auteur « J'ai pas aimé votre livre, j'ai pas aimé ça, j'ai pas compris ça. » Si on a l'intelligence des mots ou l'intelligence du cœur ou l'intelligence simplement d'avoir les pieds dans la terre et de ne pas se prendre pour la troisième merveille du monde, à partir de là, on est capable, je crois, de se remettre en question. Et c'est ce qui fait évoluer l'écriture, c'est ce qui fait évoluer ce que nous sommes. Et c'est ce qui permet à chacun de vous, quand vous lisez nos livres, de lire le prochain.
Oui, c'est très vrai. Mais cette rencontre, de toute façon, avec le lecteur, et pour nous, c'est un travail très solitaire. Donc, nous vivons avec nos personnages, nous vivons avec cet univers qu'on a dans la tête, cette intuition qui nous mène, qui nous guide vers quelque chose. Pourquoi a-t-on envie de parler de tel sujet? Qu'est-ce qui nous mène vers telle époque? Et on vit comme ça, très seul avec nous-mêmes, le temps de l'écriture. Vient ensuite le temps de la rencontre. Donc, et ça, c'est quelque chose c'est à la fois merveilleux. Bon, enfin, moi, je trouve ça assez merveilleux.
Toujours,
et bien sûr, on s'expose à des réflexions, enfin, des personnes quelquefois qui sont un peu hargneuses ou désagréables, mais enfin, en majorité,
oui, non.
C'est assez rare, parce que tout ça n'est pas très polémique, donc ça, c'est bien. Et puis, au contraire, moi, je sais que le bonheur, c'est d'apporter un moment de plaisir et d'avoir des lecteurs qui viennent vous dire « j'ai beaucoup aimé, j'ai été transporté, voilà, quel est le prochain ?» et tout.
Sûr,
et ça, c'est vraiment la récompense.
C'est majoritairement, bien sûr.
Ouais.
Puis les mails qu'on reçoit, c'est chouette.
On a vu en début de conférence que vous avez toutes les deux vos périodes de prédilection, donc le Moyen-Âge pour Mary Calmel.
Pas que
le Moyen-Âge.
Non, parce que je suis allée jusqu'au 18e.
Et donc aussi, plutôt 20e siècle pour Teresa Rêvé. Est-ce qu'il y a des périodes sur lesquelles vous serez incapable d'écrire? Parce qu'elle ne vous inspire pas, parce qu'elle vous rebute ou...
Alors moi, ce qui me gênerait, je vais vous dire, quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi vous n'écrivez pas sur la période Versailles, le roi, soleil, des choses comme ça. Et on m'a dit, c'est tellement magique. J'ai dit, oui, mais ça sent tellement mauvais. Et je me suis dit, vous savez, bon, je suis une femme. Ma foi, comme toutes les femmes, mon cœur palpite et je ne me vois pas du tout palpiter pour quelqu'un qui enlève la perruque et qui essuie ce qu'il y a dessous. Je ne peux pas. Je dis voilà. Alors, c'est aussi bête que ça, j'aurais du mal. Alors, c'est vrai qu'il y avait le faste, mais derrière, ça cachait tellement de choses. Et le Moyen-Âge, paradoxalement, était tellement plus propre, tellement plus sain. À l'époque d'Aliénor, on se lavait, il y avait encore tous les termes romains. C'est une période où les pestes sont arrivées après, la crasse est arrivée après, est arrivée à partir du moment où, avec la Renaissance, on a détruit tout ce qui était romain, tout ce qui était les bains collectifs et tout ça, où on a tout détruit pour faire du beau, pour faire de l'italien, pour faire du voilà. Mais à l'époque d'Aliénor, ils étaient assez propres. Il n'y avait pas de grandes épidémies comme ça. Et c'est vrai que, alors c'était très sporadique dans des endroits très reculés, mais ça n'avait pas encore cette ampleur que ça a eu après, dans les siècles qui ont suivi. Donc ça, moi, c'est assez... Ça me dérange. Alors, je l'ai effleuré, cette espèce de crasse là, avec les 10 pirates, quand j'ai traversé un peu la cour de Saint-Germain-les-Prés, puisqu'il y avait le roi d'Angleterre, enfin, qui avait été chassé par il y avait une espèce de schisme en Angleterre, donc il y avait un roi qui était là-bas sur le trône et un roi qui était hébergé par le roi de France ici, donc une espèce de cour anglaise à Saint-Germain. Et finalement, j'ai été contente de repartir sur un bateau et d'être pirate.
c'est aussi simple que ça.
Voilà, parce qu'au moins, ça purifie. Il y avait le côté. Moi, c'est cette période, je crois, qui me. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas dessus, parce qu'effectivement, il y a des beaux personnages. Mais j'avoue que. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, je serai un homme. Ce sera peut-être plus facile.
Non, et c'est vrai. Est-ce qu'il y a une période sur laquelle je ne parlerai pas ? Des périodes qui m'intéressent plus que d'autres, donc c'est vrai que tout ce qui est Révolution française, j'avais pensé à une époque, les Amazones en Vendée, parmi les Chouans, il y a des portraits de femmes magnifiques, mais c'est pas, voilà, je crois que ça c'est des choses qui se commandent pas, c'est vraiment notre cœur qui parle, c'est notre intuition qui parle, moi, j'aurais, et puis surtout, comme j'ai cette espèce de besoin de rigueur dans les recherches, si je dois changer d'époque, ça fait frémir mon éditeur. Il dit, mais mon Dieu, on va te perdre dans les archives, on ne te verra plus. Déjà, on m'avait interdit les accès aux archives de la Wehrmacht pour la Louve Blanche en disant, on ne te verra plus. Si tu y vas, c'est terrible. Donc,
c'est très, très compliqué.
Voilà, ouais, ce serait un autre monde. Pour moi, ça me demandera de me plonger dans des détails qui, en fait, pour l'instant, me font un peu peur. Ça me ferait un peu peur de changer d'époque. Mais, quoique, j'ai une idée en tête, mais pas pour l'instant, mais qui, en effet, me ferait changer d'époque. Mais, en tout cas, s'il y en a une qui ne m'intéresserait pas tellement, c'est l'époque de Versailles aussi. Puis, ça, tout ce qui est Marie-Antoinette, mon Dieu, ça a été tellement, tellement fait, tellement dit. Puis vous avez des spéciales. Alors là, pour se faire déchirer, alors là, vous êtes mort avec Marie-Antoinette. Non, et puis c'est vrai que je ne le sens pas. Voilà, je le sens moins. C'est pas. J'ai une de mes très bonnes amies qui, elle, adore cette période et qui tourne, elle, toujours autour de cette période. Mais voilà, c'est quelque chose de très intuitif. De chacun d'entre nous.
Ouais, je crois qu'on a cette espèce. Oui. Moi, c'est vrai.
Et puis n'oublions pas qu'il y a, et ça, on n'en parle jamais, mais il y a quand même un travail de, comment dire, un peu de marketing commercial des éditeurs derrière. Et les éditeurs n'aiment pas du tout quand les auteurs soudain changent trop. Et parce que les lecteurs s'habituent à une certaine chose. Donc ça, il y a aussi un poids un petit peu...
Moi, je l'ai jamais... J'ai la chance. Alors ça, c'est vrai que bon, moi, j'ai la chance d'avoir un éditeur un peu non conformiste.
Oui, moins conformiste. Oui.
Voilà, qui du coup... je ne suis pas dans une collection histoire ou roman historique. Donc ça, c'est cette chance-là. Donc
liberté,
je fais un peu ce que je veux. Ouais. Et qui, quand j'ai écrit La rivière des âmes, qui était un roman contemporain et assez particulier, puisque moi, je l'ai écrit dans une période où je portais un cancer, comme on porte un enfant mort, quoi. C'est très particulier. Et où je sentais que moi, j'étais en train de mourir. Personne ne le savait encore, mais moi, je le sentais. Et ce livre-là m'a sauvé la vie. Donc, c'est un livre très contemporain, qui ne parle pas du tout de ça, mais qui avait une espèce d'appel, qui a été, disons, le moyen de me mettre en garde. Voilà, une espèce de cri de cette héroïne qui me disait, si tu n'affrontes pas ta plus grande peur, tu meurs. Et quand je l'ai présenté à Fixo, moi, il m'a dit, écoute, c'est pas un roman qui va aider ta carrière parce que il est contemporain, les gens n'attendent pas, il va surprendre et puis je pense pas qu'ils vont accrocher parce que tu livres à travers ce livre une part de toi qui finalement peut-être est vulnérable. Donc, un, tu t'exposes, deux, ça va pas porter grand-chose à ta carrière et puis trois, évidemment, on va pas en vendre 7 ou 800 000 comme d'habitude, quoi. Et je lui ai dit, écoute, Bernard, si tu le publies pas, je meurs. Donc, il m'a dit non, mais quand même. Bon, je me suis levée, j'ai dit bon, écoute, on s'est tout dit. J'ai claqué la porte, je suis allée en larmes dans le bureau de la directrice littéraire en me disant je crois que là, on ne s'est pas compris. Et 30 secondes après, il tapait à la porte de du bureau, elle ouvrait la porte, et puis il me prenait dans ses bras, il me disait bon, alors explique-moi, qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit je te l'ai dit, si ce livre-là ne sort pas, je meurs. Il m'a dit ta carrière. J'ai dit je m'en fous, si je meurs, ouais. Ça ne sert à rien. Il m'a dit ok, d'accord. Et il a publié le livre. Oui. Peut-être qu'ailleurs, on ne l'aurait pas publié.
Peut-être, oui. Et ça, c'était quelque chose dont on parle peu, mais je veux dire que
c'est important.
Le monde de l'édition aujourd'hui, enfin, vous le savez que les librairies luttent pour exister, qu'on enferme, on lit ça dans les journaux quasiment tous les jours. Oui. Donc, il y a un combat aussi avec ce monde merveilleux de l'écrit, qui est le nôtre à nous tous, vous lecteurs, nous auteurs, vous libraires. Et les éditeurs ont donc ce regard sur notre travail. Alors, on peut imposer certaines choses, mais là, visiblement, donc Mireille, il y a quand même eu un combat. Vous avez dit, bon, je le veux. Voilà. Ouais. Et il a eu l'intelligence d'accepter.
Et il en a autant
mais moi,
que
je
les
sais
autres,
que, donc, par exemple, après La Louve Blanche et Tous les rêves du monde, j'avais l'idée de terminer cette histoire de Xenia et de Max, et j'avais tout le livre en tête. Vraiment, c'était un peu un cadeau du ciel, l'écriture de ces personnages. Et mon éditeur a un peu fait la grimace parce que c'était une trilogie, qu'il me fallait encore 2 ans pour l'écrire, puisqu'il me fallait la documentation, etc. Et donc, ils m'ont fait comprendre que ce serait bien si peut-être je faisais autre chose. Et j'ai donc écrit Dernier été à Mayfair. Mais je porte en moi ce troisième livre comme un enfant qui n'est pas mort, parce que le livre est en moi, il est vivant. Mais maintenant, mon souci, c'est de me dire, mais alors est-ce qu'un jour je vais l'écrire ? Parce que quand même le style change, et que là c'était dans la continuité, La Louve et Tous les rêves, est-ce que maintenant si j'écris un livre en reprenant les personnages...
Ça reviendra.
Oui, mais moi ça m'angoisse terriblement.
Moi, je pensais aussi, quand j'ai écrit L'île d'Aliénor, vraiment l'histoire de l'île d'Aliénor, elle est particulière, c'est que, comme je vous le disais, 1 million d'exemplaires d'un coup, alors que je n'étais pas encore connue, ça a été tel que j'avais la suite en tête. Et moi j'ai bloqué pour d'autres raisons, parce qu'évidemment tout le monde me l'a réclamé la suite. Et je me suis dit, mais si je la fais maintenant, qu'est-ce qu'on va penser, vu le succès du livre ? C'est une suite commerciale. Comme oui. Vous avez un film qui sort et oui. On fait le 2, le 3, le 4, le 5. Et je me suis dit, mais non, parce que moi, ce que je veux, c'est dire aux gens que je suis un écrivain. C'est pas ça mon but, c'est pas de gagner de l'argent, je m'en fous de ça. Ce qui est important, je m'en fous. À l'époque, j'étais au Rémy, donc je m'en foutais pas vraiment, mais avec ce que, voilà, le lit d'Aliénor avait suffisamment, j'ai gagné plus d'argent dans ma vie que ce jour-là que je pouvais même l'imaginer. Mais c'était... Si vous voulez, c'était pas ça le fond. Le fond, c'était de me dire, en fait, moi, je veux cette légitimité-là. Je veux qu'on sache que je suis un écrivain. Parce que depuis que je suis toute petite, je le dis et personne ne me croit. Et je suis toute seule à le savoir. Donc j'ai envie que ça existe, ça. Et j'ai attendu 12 livres avant de faire la suite. Et je me suis dit à ce moment-là exactement la même chose que vous. Est-ce que je vais retrouver, parce que finalement, moi, je reprends au même endroit où je me suis arrêtée. Oui. Est-ce qu'il va y avoir la même écriture ? Est-ce qu'il y aura le même souffle ? Est-ce qu'il y aura la même musique ?
Oui, c'est ça. C'est une question de musique et d'harmonie.
Et j'ai posé le stylo et c'est reparti. Exactement pareil.
Ah oui.
Donc je crois que quand un
livre... Alors vous savez maintenant, alors je vais vous dire au revoir.
Parce que je crois qu'on l'a pas, je crois qu'on l'a en nous. À partir du moment où on l'a porté, il est là. Et je crois que cette musique-là, je pense que chaque livre a sa propre musique.
Oui.
Et cette musique-là, on l'oublie pas. Les gens qui des années après me disent oh, j'ai lu ce livre de vous mais je l'ai jamais oublié et je me rappelle encore, il y avait une espèce de, j'entendais des choses pendant que je lisais tout ça et je me dis mais oui bon peut-être, et puis j'ouvre, ça m'est arrivé après avoir entendu ces gens me dire ça, de reprendre le bouquin, parce que bon, nous on oublie, sinon ce serait insupportable, on aurait une tête comme ça et on oublie, on passe à autre chose, et là d'ouvrir le livre et de relire 2-3 phrases et de me dire oui ça y est, je me rappelle la musique particulière, ce qui faisait que voilà, nous aussi on a été transportés, et ça s'oublie pas.
Oui, parce que je trouve qu'il y a un échange avec les personnages qui est incroyable. Les personnages nous parlent. En tout cas, moi, mes personnages me parlent. Il y a un vrai dialogue avec eux qui peut être un combat. Il y a certains livres qui sont beaucoup plus difficiles. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Dernier été à Mayfair, où j'étais dans un... J'engueulais, mais littéralement, mes personnages en disant « Mais pourquoi tu ne me parles pas ? Mais j'entends pas. » Parce qu'on est là devant son ordinateur et puis on est là. Et puis ça fait 4 heures qu'on est devant cet ordinateur et rien ne sort. Et on écrit un paragraphe et il est mauvais et on le sait. Et ils ne me parlaient pas, alors que Max et Xenia, j'étais portée par les personnages, mais je n'arrivais pas à taper assez vite, c'était quelque chose d'absolument magique, et cette magie, voilà, chaque livre est une aventure différente, chaque livre nous apporte quelque chose de différent, qui peut être et plus ou moins un combat, et donc quand on a la chance de rencontrer des personnages exceptionnels qui vraiment vous transportent, c'est vrai que peut-être que la musique, si jamais un jour j'écris la fin de la boucle, je retrouverai peut-être...
Ah, je suis sûre, moi. Ouais. Je suis sûre, ça se perd.
Je vous dirai, Mireille.
Ouais, volontiers. Hein, ouais, allez-y. Non, je crois... Par contre, effectivement, au fil... au fil de moi je l'ai vu l'évolution autrement, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la saga, les personnages vieillissent, puisque moi je démarre Aliénor à 15 ans et je vais jusqu'à la fin de sa vie quasiment. Donc les personnages vieillissent, ils évoluent et du coup la plume évolue avec eux. Mais elle évolue parce qu'ils ont leur forme de pensée qui change, parce que bah, chacun et on vit. Moi, j'ai vieilli aussi en 10 ans. Donc la plume, elle a redémarré au même moment. La musique était la même et petit à petit, au fur et à mesure d'évolution des personnages, ma plume, elle a évolué encore. Et ça, je m'en rends compte. Les gens qui me disent, mais dans Richard Cœur de Lion, c'est la même écriture et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, je pense qu'il est dû au personnage, à la personnalité aussi des êtres que l'on fait vieillir, que l'on fait mûrir d'expériences, de tourments, de vie, tout simplement. Et c'est ça qui enrichit aussi notre plume. Faut pas... Un jour, quelqu'un m'a dit, mais finalement, vous les choisissez comment, vos personnages ? Souvent, ce sont des femmes fortes, des femmes qui ont un destin exceptionnel et tout ça. Vous avez eu des combats énormes à mener dans votre vie. Qui vous inspire finalement ? Et je me suis dit, finalement, elles sont toutes venues à moi. C'est pas moi qui choisis les personnages, ça a été des rencontres chaque fois. Et elles m'ont autant apporté finalement que ce que moi j'ai pu aller. Apporter à la renaissance de leur vie au travers de l'écriture, quoi. Parce que on s'est nourri mutuellement de cette force, de cette énergie de vie et de ces tourments-là. On se retrouve là à écrire et puis on éclate en sanglots ou alors on a une colère ou alors on se retrouve. Et moi, ça c'est terrible, ça m'est arrivé. Nous sommes des comédiens. Qui n'interprétons pas un rôle, mais tous les rôles.
Oui.
Et c'est extrêmement traumatisant parce que c'est lourd à vivre parce qu'on a toutes les émotions de tous les personnages et en même temps on a toutes leurs pensées, leur façon d'appréhender l'autre. Et on se dit, mais attends, si tu fais ça, lui il va pas répondre comme ça. Et en même temps, tu sais qu'il va le faire et c'est terrible parce qu'il faut être tous les personnages à la fois. On est complètement schizo, hein, je vous jure. Paradoxalement, le plus difficile pour moi, ça a été de me dire à un moment donné, j'ai dû interpréter le rôle d'un type qui égorge des enfants. Et pour et là, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut faire un truc pareil, quoi ? C'est moi qui suis une maman, moi qui ai 6 enfants, je peux pas. C'est inconcevable pour moi. Et pourtant, il a fallu que j'aille mettre les mains. Non, autour de ces poignards, que j'aille arracher le cœur de ces deux. Et c'est une souffrance indicible. Sauf qu'à un moment donné, ça a pris le dessus. C'est-à-dire que pour pouvoir être juste dans l'écriture, il a fallu que je devienne ce personnage-là. Donc vous n'en ressortez jamais indemne. Hein, bon, mon mari, il avait peur, hein, je vous jure. Mais vous finissez par. À un moment donné, quand vous posez le stylo, vous vous dites. C'est bien de téléphoner à ses enfants, ça va ma chérie ? C'est maman. Oui. Vous voyez, et ça, c'est ce qui fait la différence entre ce qu'on en revenait. Voilà, ça fait la différence entre un livre d'histoire et un roman historique. Parce que c'est ce qu'on met, nous, là-dedans, que vous allez ressentir et qui fait la vérité d'un livre. Parce que ce qu'on met, c'est nos cœurs à nu, ni plus ni moins. Ce sont nos émotions à nu. Ce qu'on met, c'est tout ce qu'on est. Voilà, tout ce qu'on est, de générosité, de souffrance, voilà, c'est tout notre vécu ou notre peur du vécu qui ressort et qui nourrit ces personnages-là ou qui réactive ce qu'ils ont vécu et qui fait que on essaie de vous tenir un petit peu, mais sans le faire exprès, parce que nous, on est tenus, quoi.
Vous écrivez, mais vous lisez aussi. Et quels sont pour vous vos romans historiques préférés ?
Mireille.
C'est bien, c'est gentil. Alors, je vais vous dire, moi, je lis très peu de romans historiques de la même période. Pour une raison toute simple, c'est que j'ai toujours peur de plagiat inconscient. Parce que malgré tout, quoi qu'on fasse, on lit des choses. Et ces choses, elles s'impriment dans votre mémoire. Et vous ne savez pas, le jour où vous êtes en train d'écrire, si quelque part, vous ne reproduisez pas quelque chose que vous avez déjà lu. Déjà, c'est difficile de ne pas faire du plagiat inconscient quand on a une somme de documents, de recherches là, et qu'il faut les avaler, les digérer, comme je vous disais, les oublier. Mais malgré tout, on se retrouve... n'y a pas 50 000 manières de dire le traité il a été signé tel jour. Il faut à un moment ou à un autre le dire. Et j'ai toujours peur, moi, de ça. Donc je lis rarement des livres qui traitent de la même période ou du même. Donc je fais vraiment l'impasse là-dessus. Donc je lis très peu. Dans les romans historiques, je lis, c'est plutôt des romans effectivement qui se passent plutôt au début du siècle, voilà, du 20e siècle, ouais. Ou alors des choses un petit peu plus légères. Et je lis beaucoup surtout de thrillers et polar et thriller, parce que ça me lave la tête complètement.
Moi, je pourrais dire que ce sont les romans qui m'ont marqué, qui m'ont peut-être donné envie d'écrire ce genre de livres. C'était, en tout cas pour moi, c'était Henri Troya, très certainement. La Lumière des Justes, que j'ai lu donc à 14-15 ans et qui m'a profondément bouleversée et qui me dit, oh là là, ce que j'ai envie de raconter. J'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours écrit. Moi, j'ai commencé à raconter des petites histoires, j'avais 9 ans, comme tout le monde, comme on faisait toutes. Donc, pour moi, c'était certainement Henri Troya. Et je regardais un petit peu, justement, dans la librairie tout à l'heure. Un autre livre qui m'avait beaucoup marqué à sa sortie, par sa qualité, c'était le livre de Jeffrey Archer, Cain and Abel en anglais. Cain et Abel, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, mais... Pareil, Cain et Abel. Donc voilà, parce qu'il avait cette façon à l'anglo-saxonne de raconter son histoire. Et donc, moi, j'ai été imprégnée de littérature anglo-saxonne. Donc, ce sont ces livres-là. J'adorais un auteur qui s'appelle Susan Howatch aussi, qui est traduite en France. Mais très certainement, le point de départ a été pour moi Henri Troya avec La Lumière des Justes. Et puis après... Les romans historiques, j'allais dire le dernier en date, et pourtant il dit que ce n'est pas un roman historique, c'est le Pierre Lemaître qui m'a absolument, je trouvais ça absolument magistral. Lui dit que c'est un roman, mais que que ce n'est pas un roman historique. Donc on revient, on boucle la boucle.
Voilà, exactement.
Grande discussion en tout cas avec un arrière-plan historique de la guerre de 14 qui m'a transporté là tout récemment.
Je pense que parmi vous, dans la salle, certains trépignent d'impatience une petite dédicace peut-être. Donc on va peut-être passer à la petite séance de dédicace.
Alors je précise peut-être, Teresa, je ne sais pas comment Teresa fonctionne de ce côté-là. Moi j'ai une boîte mail directement depuis mon site, donc cette discussion, on peut la continuer, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous avez quoi que ce soit à me demander, monsieur n'a pas tout aimé dans le lit d'Aliénor, donc on peut en parler, il n'y a pas de problème. calmelmireille@owl.com, c'est facile à retenir, vous n'hésitez pas. Je réponds, je mets parfois un peu de temps parce que vous imaginez que je reçois pas mal de courriers, mais je réponds. Via Facebook, ça marche aussi. D'accord, j'ai une page Facebook qui est là pour vous, donc n'hésitez pas, le lien j'y tiens et je ne l'ai pas créé pour que les gens me disent j'adore ce que vous faites, j'aime beaucoup quand on me dit ça, mais c'est pas que ça. Je suis aussi une oreille, je suis aussi, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, mes livres sont aussi une passerelle et donc cette passerelle elle est là pas pour rien. Donc si vous, à un moment donné, vous avez besoin juste d'une oreille, n'hésitez pas, je suis là pour vous.
Puis moi, vous pouvez me joindre en effet grâce à la page Facebook, je n'ai pas de site, mais la page Facebook, n'hésitez pas, soit en message personnel, sur la page, et c'est vrai que ça permet des échanges très sympathiques, et que j'ai aussi avec les lecteurs, donc surtout venez, et moi je vous répondrai avec joie à toute question subsidiaire.